Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. De 15h à 16h tous les jours, il est à mes côtés dans ce studio pour prendre soin de vous, pour vous informer, le docteur Jimmy Mohamed, bonjour.
Bonjour Mélanie, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire aujourd'hui, notre grand dossier sera consacré aux comportements à risque, ou plutôt aux consommations à risque des adolescents. Comment les alerter sur les dangers du cannabis ou de l'excès d'alcool par exemple? Comment savoir qu'ils ont peut-être, pourquoi pas, déjà essayé la cocaïne? Et comment réagir en tant que parent et les aider bien sûr? Pour en parler, nous recevrons le professeur Laurent Carilla. Il est psychiatre addictologue à l'hôpital Paul Brousse à Villejuif. Ensuite, dans notre chronique, les mots du quotidien. Focus aujourd'hui sur une maladie qu'on a presque oubliée grâce à la vaccination. Savez-vous ce que sont les oreillons? Savez-vous que chez les adolescents et les adultes, cette maladie virale expose à un certain nombre de complications? Bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed vous dira tout. Enfin, vers 15h50, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle nous parlera de timidité. Elle nous dira notamment si les applications de rencontres sont vraiment une solution pour les célibataires qui en souffrent.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et on va commencer par la première question, c'est celle de Lucie, elle a 32 ans.
Oui, bonjour Mélanie, bonjour docteur Jimmy Mohamed. Je me permets de vous appeler parce que j'ai une petite question. Ma fille de 12 mois, elle a la voix vraiment très rauque et assez grave. Et son pédiatre a déjà un peu regardé et m'a dit que c'était sa voix normale en fait. Mais faut-il quand même que je pense à contacter un ORL? Merci beaucoup.
Alors Lucie, merci beaucoup d'abord pour votre question. Et pour y répondre précisément, nous avons fait appel à un spécialiste, le docteur Jean Habitbol, ORL et phoniatre à Paris. On l'écoute.
En fait, les enfants, à partir de 2-3 mois, commencent à crier et ont des cordes vocales qui est relativement souple, mais qui provoque, si l'enfant crie beaucoup trop, des petits nodules sur les cordes vocales. C'est-à-dire, c'est comme des petits boutons si vous voulez, sur chaque corde vocale. Qui fait qu'à ce moment-là, la voix devient, comme je suis en train de faire, ça devient une voix rauque. En fait, c'est une voix rauque, faussement rauque. C'est pas la corde vocale qui est mal foutue, entre guillemets. C'est pas ça le problème. C'est que sur les cordes vocales, du fait du forçage vocal, des cris de l'enfant qui sont mal adaptés, ce qui est relativement rare à 12 mois, ça survient habituellement entre 2 ans et 5 ans. Et les nodules qui se forment sont des nodules de forçage sur le tiers moyen de la corde vocale, qui est la partie vibratoire la plus importante, la plus faible et la plus fragile. Et dans la majorité des cas, il n'y a pas de problème.
C'était donc le docteur Jean Habitbol au micro de Benjamin Lévesque. Alors on va passer à présent à la deuxième question d'auditeur. Cette fois, c'est la question pour vous, Jimmy. C'est une question d'Armand qui nous a appelé de Lyon. On l'écoute.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. J'ai une question. Ma maman qui a 64 ans a régulièrement des vertiges. Elle a chuté sur la tête il y a un an, mais le généraliste dit que ça n'a rien à voir. À quoi peuvent être dus ces vertiges qui reviennent régulièrement? Merci beaucoup.
Alors d'abord Armand, on ne va pas contredire votre généraliste, on n'est pas là pour ça, Jimmy ne se permettrait pas je pense de contredire un confrère, mais quand même on va essayer de vous aiguiller. Jimmy, avoir des vertiges régulièrement, alors là il y a un contexte de chute certes, mais j'imagine que de toute façon des vertiges à répétition comme ça, il peut y avoir maintes et maintes causes, non?
Pas tant que ça finalement, non. Alors, il y a une cause qui est très fréquente.
Moi, je ne suis pas médecin, ça tombe bien.
On appelle ça les vertiges bénins paroxystiques positionnels, c'est pas du tout méchant, c'est des petits cristaux qu'on a dans l'oreille interne. Et pour une raison qu'on ne connaît pas ou qu'on ne comprend pas, ces cristaux qui normalement sont bien attachés vont se détacher de l'oreille, typiquement après un tout petit traumatisme crânien, se cogner la tête.
Donc une chute, ça pourrait être...
Ou une courbe de la tête contre un placard pourrait suffire à décrocher ces cristaux. Et dans certaines positions de la tête, vous allez déclencher des vertiges. Et des vertiges positionnels. Vous tournez la tête à gauche, il y a des vertiges.
Mais
à droite, il n'y en a pas, ou inversement.
D'accord, ou couché, mais pas debout.
Exactement. Ça survient par crise, accompagné de nausées et de vomissements. Et il n'y a pas d'autres symptômes associés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de maux de tête,
ni de fièvre, on a
de douleur au niveau des cervicales. Si c'est le cas, il est impératif de consulter. Ça peut révéler des pathologies plus graves. Mais ce vertige, quand c'est positionnel, dans 99% des cas, c'est bénin et ça passe tout seul.
D'accord. On a entendu parler aussi de la maladie, alors je ne sais pas si je le dis bien, de Meunière, vous allez me corriger.
Meunière.
Voilà, il paraît que ça peut être à l'origine de vertiges à répétition.
Exact.
C'est quoi cette
la
maladie?
La seule chose, c'est que c'est une cause ORL plutôt fréquente de vertige, mais elle est associée avec d'autres symptômes ORL. Vous avez dans un premier temps une baisse de l'audition, vous entendez moins bien, puis c'est suivi d'acouphènes, un bourdonnement de l'oreille. Ouais. Un petit intervalle libre, et puis vous avez des vertiges qui sont très intenses. Les crises peuvent se répéter, ça peut durer entre 5 et 20 ans avec des crises plusieurs fois par an, mais sauf que à mesure que la maladie évolue, vous avez de moins en moins de vertiges, mais une perte de l'audition qui va s'accentuer,
oui, c'est sérieux,
raison pour laquelle il faut consulter, d'autant plus qu'il y a quelques traitements qui peuvent calmer ou stabiliser la maladie.
Ça se traite comment, grosso modo ?
Traitement de la crise, dans un premier temps. On vous donne parfois des benzodiazépines pour casser la crise, certains antivertigineux. Et puis, il y a des techniques comme on peut mettre une espèce de petit bâton, un aérateur dans l'oreille pour mettre une pression qui permet d'éviter d'avoir des crises. Parfois, on peut détruire les cellules du labyrinthe dans l'oreille interne qui vont calmer les vertiges. Bref, une prise en charge ORL particulière, oui. Puisqu'on peut faire aussi ce qu'on appelle de la rééducation vestibulaire. On réapprend votre oreille à marcher correctement. Et donc ça, c'est l'ORL qui le fait. Et souvent, le diagnostic est posé très facilement et très rapidement. Donc, il faut aller voir son ORL.
Très rapidement, on ne peut pas avoir des vertiges aussi parce qu'on est, je ne sais pas, en hypoglycémie, on
si,
manque de quelque
ça,
chose.
Mais ça, c'est des ouais. sensations vertigineuses. Ah, alors que le vrai vertige, c'est la pièce qui tourne autour de vous. Si vous êtes en baisse de tension, si jamais vous avez de l'anémie, si vous êtes déshydraté, votre tension est trop basse et vous pouvez avoir la sensation de tomber dans les pommes. À différencier du vrai vertige, vous êtes sur un manège. Et là, dans ces cas-là, c'est l'ORL. Sinon, le médecin de premier recours, c'est votre médecin généraliste, évidemment.
Merci beaucoup, Jimmy. Alors, si vous aussi, comme Armand qu'on vient d'entendre, vous voulez nous laisser vos questions au 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout, n'hésitez pas.
Europe 1.
Dans un instant, nous allons accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est le psychiatre, le professeur Laurent Carilla. Avec lui, on va plonger dans le monde dangereux parfois des adolescents. À cette époque de la vie, on peut être tenté d'essayer des substances dangereuses sans mesurer les risques qu'on encourt. Alors comment les alerter, les ados ? Comment réagir avec eux si on découvre qu'ils se mettent en danger ? Tout ça, c'est juste après. Alors à tout de suite sur Europe 1.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission santé et bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir notre invité pour le dossier du jour. C'est vous, professeur Laurent Carilla, bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous
bonjour,
êtes
Jimmy.
Psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Et avec vous aujourd'hui, on va s'intéresser aux conduites à risque des adolescents. Alors tabac, cannabis, alcool, il y en a beaucoup.
Il y en a plein.
Voilà, on n'aura peut-être pas le temps de voir chacune d'entre elles. Mais dans un premier temps, on va peut-être essayer de poser un peu le problème. Est-ce qu'on a un chiffre, par exemple, concernant l'alcool ou le cannabis ? À quel âge en moyenne les ados font leur première expérimentation en France en 2020 ?
Bon, on est dans des chiffres assez standards, quoi. En France, déjà, l'alcool, c'est comme une entité nationale, donc c'est même un marqueur social, et les parents font goûter l'alcool aux enfants, donc il y en a qui peuvent goûter très tôt, mais on va dire les premières grandes consommations, c'est les premières, là, en 2020, c'est les premières fêtes, c'est genre quand on est en troisième, à peu près, en dehors des contextes familiaux, hein, j'entends.
Bien
le
sûr.
Tabac, c'est à peu près la même chose. Et le cannabis aussi.
On c'est beaucoup plus tôt qu'avant ou pas ? Parce qu'on se dit toujours, les jeunes aujourd'hui font n'importe quoi.
Les initiations sont plus précoces. C'est entre 12-13 ans, l'initiation.
Ouais. Jimmy ?
Il y a peut-être une différence entre initiation et première ivresse. Est-ce qu'on sait dans quelle situation, justement, il va avoir lieu cette première ivresse à l'occasion de fêtes ?
C'est plutôt des fêtes. Ouais. C'est, d'abord, la question de l'alcool, c'est autour du binge drinking. C'est-à-dire qu'ils se retrouvent, ils sont en groupe. L'idée, ce n'est pas d'être défoncé tout seul. L'idée, c'est ce rituel de on va tous boire très très vite pour être ivre très très vite. Parce qu'il y a quand même cette image aussi de ouais, ma première ivresse, c'est quand même un marqueur de je deviens un peu comme un adulte. Quoi.
Oui.
Le tabac, ça a un peu reculé, il y a la vape.
C'est un peu plus has-been, hein, le tabac.
Ouais, c'est un peu plus has-been et c'est vrai qu'ils sont plus vers la vape. Donc c'est autre chose la vape, hein, mais bon, il y en a qui testent plus la vape que le tabac, la clope. La cigarette. Et après, pour le cannabis, ben c'est toujours très, très présent, le cannabis. Hein. La résine et l'herbe est très présente. Il y a une culture autour de l'herbe. Elle est quand même liée à la culture musicale, qui est forte.
Et puis, une espèce de fausse idée de « c'est pas si mauvais que ça ».
Oui,
hein,
il y a toujours ce truc de drogue douce, drogue dure. C'est un truc qui c'est n'importe quoi. Mais il y a quand même cet élément-là. Donc, on est dans... l'alcool, oui, le tabac, il y en a qui vapotent, et puis il y a le cannabis.
Est-ce qu'on peut dire que les ados, justement, parce que là on a cité quelques-unes des substances qui peuvent nous inquiéter quand elles sont consommées en excès ou tout court avec chez les ados, est-ce qu'on sait s'ils sont plus polyconsommateurs que les jeunes l'été, j'en sais rien, aux époques de Jimmy ou de votre jeunesse à vous ?
Je suis pas très vieux, Mélanie.
Franchement,
j'ai 35 ans.
Oui, comme nous, voilà.
On est plutôt dans un profil de polyconsommation. On a un profil aussi de consommation très très différente parce qu'il y a aussi les écrans et les réseaux sociaux qui véhiculent quand même plein de messages et des messages de consommation aussi. Il y a le protoxyde d'azote qui est présent, ce n'est pas
très inquiétant en ce moment.
C'est un peu inquiétant. Il y a la cocaïne qui est beaucoup plus démocratisée. Donc, ce n'est pas un appel à consommer tous ces produits. Il y a la MDMA, il faut en parler parce que c'est une catastrophe.
La cocaïne, il y a 10 ans, ce n'était pas tellement un truc d'ado.
Non,
quoi.
La
c'était
cocaïne,
pour
quand
les
vous étiez
vieux,
jeune, Mélanie, et c'était très cher.
Je ne sais pas, moi, je n'ai jamais essayé.
Ouais, non, mais c'était très cher. Et là, maintenant,
c'est pas très
facile.
Cher.
Non, ouais. Ben, on peut se l'acheter à 4, 5. Chacun met un petit billet bon, voilà, de 5,
à
10 euros.
À 15 ans, il y en a, vous en avez des patients qui ont déjà essayé.
Non, je ne vois pas de patients qui ont déjà essayé de la cocaïne, mais dans l'histoire des patients jeunes, on voit qu'eux, ils ont déjà expérimenté la cocaïne très tôt.
Jimmy ?
Est-ce qu'il y a un impact du niveau socio-économique, notamment celui des parents ? Est-ce qu'on pourrait croire que plus les parents ont fait de grandes études et moins l'enfant est à risque, ou peut-être l'inverse ?
Non, il n'y a plus cette distinction classe sociale, en tout cas sur tous les produits. C'est plutôt un phénomène de masse de consommation. Alors, tout le monde ne consomme pas, heureusement, mais en France, quand même, on est quand même un des premiers pays européens à consommer du cannabis. Donc, c'est une vraie question. Et c'est en rapport quand même avec tout ce qui est fait autour, en termes de politique, etc.
Quand j'étais jeune, on disait surtout que c'était les garçons qui faisaient ce genre de bêtises-là, qui testaient des substances, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, les filles rattrapent sur le tabac, sur l'alcool, sur le cannabis aussi.
Ouais, les filles prennent du proto, les filles prennent de la MDMA en soirée. Alors, on n'est pas dans un modèle où tout le monde consomme tous les jours. Mais bon, quand même, voilà, il y a quand même toujours ce marqueur d'identité. Je commence à grandir.
Et ça se lisse sur les deux sexes.
Ça se rapproche. Ouais. Ouais.
Jimmy ?
Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un ado qui décide de boire ou de fumer ? Est-ce que c'est le sentiment de toute puissance ? Parce qu'on aura beau leur dire attention mille fois, on a l'impression que le message peut ne pas passer.
Y a un phénomène quand même, encore une fois, de modeling, c'est-à-dire c'est plutôt le phénomène dans des soirées, par exemple dans des anniversaires, etc. C'est-à-dire que à 15 ans, on arrive en soirée avec des bouteilles d'alcool fort, par exemple. Donc, il y a ce truc de on va boire, on est grand, on change.
C'est cette époque où on veut se démarquer des parents.
Et de toute façon, dire le message ne bois pas, ne bois pas, ne bois pas, c'est pas fonctionnel comme message. C'est plutôt, il faut préparer les enfants, les ados à aller en soirée.
Ça, on va en parler après, mais vous pensez que... est-ce que justement, il faut être... sur les détails, on y reviendra, mais vous pensez que les parents doivent vraiment s'immiscer beaucoup sur cette question avec leur ado, là, en parler beaucoup ? Ou est-ce que finalement, de toute façon, s'ils doivent faire des bêtises, ils les feront ?
Moi, je crois que les parents doivent parler avec leurs enfants avant qu'ils soient ados même. Donc, c'est un point vraiment très, très important et de manière très, très générale. Je veux dire, la Société américaine de pédiatrie disait qu'il faut parler d'alcool aux enfants à 8-9 ans. Donc il faut parler tôt d'alcool aux enfants, il faut parler tôt de drogue aux enfants, il faut parler tôt de tabac aux enfants.
Professeur Carilla, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous. Europe 1. Dans un instant, nous allons continuer ce point passionnant aujourd'hui sur les consommations à risque des adolescents. Peut-être d'ailleurs aimeriez-vous savoir si votre ado est concerné ? Comment deviner justement s'il fume du cannabis ou s'il consomme trop d'alcool lors de ses soirées entre copains ? On va vous donner quelques conseils dans quelques minutes, alors à tout de suite sur Europe 1.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors sur notre plateau aujourd'hui, notre invité c'est vous, professeur Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif.
Oui.
Cet après-midi avec vous, on parle donc de consommation à risque des ados. Et justement, je suis sûre qu'il y a beaucoup de parents ou de grands-parents qui nous écoutent et qui peut-être s'interrogent sur leur enfant, leur ado à la maison. Est-ce qu'un enfant par exemple qui fume du cannabis, par exemple, ça se voit tout de suite, les yeux rouges, tout ça? J'en connais qui disent « moi je le verrai à coup sûr ».
Non, on ne le voit pas tout de suite. Mais on peut voir certains éléments, des changements de comportement par exemple. Mais quelqu'un qui goûte pour une première fois du cannabis, on ne le voit pas comme ça. C'est plutôt sur un phénomène de consommation
quand
qui est plutôt répété.
Quand la consommation devient régulière.
Répété, régulier, on voit des changements de comportement, des odeurs sur les habits, les yeux rouges, même des changements de comportement à la maison, à l'école. Tous ces éléments-là qui sont complètement indirects, ça peut évoquer.
Jimmy ?
Mais est-ce que le Covid, d'ailleurs, a un impact sur la consommation du cannabis ? S'ils se retrouvent ensemble, est-ce qu'ils vont plus fumer ? Ou au contraire, là, comme on ne s'est pas trop vu, ça s'est calmé ?
Non. En fait, ce qui s'est passé, c'est... pendant le Covid, pendant le confinement, les dealers se sont réorganisés. Et ils vendaient, en gros, en fait, le cannabis. Donc, c'était... pour les plus jeunes, c'était peut-être plus compliqué. Mais justement, quelqu'un qui est problématique jeune et qui arrête de fumer, il faut vraiment qu'il soit accompagné dans des situations notamment de confinement. Parce que là, il peut pour le coup être très irritable, un syndrome de sevrage assez horrible. Mais là, actuellement, le message, c'est là, le Covid circule, il ne faut pas partager vos joints, par exemple, pour ceux qui fument.
Ouais.
Ça, c'est le message qu'il faut.
Bien sûr, c'est important.
C'est chacun son matériel, on ne partage pas.
Il y a des contaminations comme ça, effectivement, c'est sûr.
Mais il y a des... Il y en a.
Ouais.
Il y en a.
Donc très attention aussi vis-à-vis du Covid, évidemment. Ouais. Alors justement, si on est parent et qu'on découvre, on va dire qu'il a essayé, pas forcément qu'il est déjà tombé complètement dedans, mais qu'il a essayé le cannabis, qu'il a fumé des joints. Peut-être même qu'il nous l'avoue, parce qu'il y a certains enfants qui le disent. Ouais. À maman, hier soir, j'étais à une soirée, j'ai craqué. Bon, on va pas être content, ça c'est sûr, mais ouais. On réagit comment sur le coup ?
Il faut en discuter. Le mot-clé de toutes les situations, c'est ne pas rompre le dialogue intrafamilial. C'est le mot-clé.
Donc pas une tarte,
non. Chambre. Ne pas rompre le dialogue intrafamilial et ne pas se mettre en position de résistance. C'est-à-dire chacun est chacun est de son côté et se dit « Ah, c'est pas possible ». Il faut en discuter, il faut débriefer la situation. Et si c'est complexe, il faut rappeler en tant que parent, les risques de cette consommation.
C'est-à-dire
Les risques, c'est que il peut avoir un petit accident de la voie publique, des trucs immédiats, pas des trucs à très très long terme.
Oui,
c'est pas
un cancer du poumon, ils s'en foutent.
Cancer du poumon, ils en ont rien à... ils s'en foutent. Que problème cardiaque, ils s'en foutent. C'est plutôt de l'immédiat.
Problème d'érection, peut-être. Problème d'érection, on peut leur parler de ça.
Oui, mais problème d'érection, ça ne survient pas comme ça. Donc, c'est pas bon truc. Non, c'est plutôt accident de la voie publique, ne pas mettre de préservatif dans une soirée parce qu'on est un peu défoncé. C'est être irritable, etc.
Jimmy ?
Et justement, si on a des doutes, mais que forcément l'enfant nie, est-ce qu'on doit aller à la pêche aux preuves comme Columbo ? Est-ce qu'on doit les menacer, même d'ailleurs, avec un test urinaire ? Ou au contraire, essayer toujours d'être dans le dialogue, même s'il ne veut pas cracher le morceau ?
Docteur Mohamed, moi je suis contre les tests urinaires faits par les parents.
Ouais.
Les tests urinaires...
Il y en a beaucoup, c'est une menace pour les ados. Je vais te faire tester.
Alors, le test urinaire est positif, qu'est-ce qu'on fait ? Plus vous faites, le test urinaire est positif, vous faites quoi ?
Ouais, je sais pas.
Vous appelez les flics, peut-être ? Non, c'est pas ça. Aucun intérêt. Mais vraiment aucun intérêt. C'est pas la peine de dépenser de l'argent pour ça. Dépensez votre argent différemment. Ça existe cette position-là, cette position de « ouais, on sait que t'as fumé, on sent que t'as fumé », l'autre dit « bon, moi j'ai pas fumé ». Donc il faut essayer de voir tout doucement comment désamorcer la situation. Si c'est trop complexe, il faut se faire aider par un tiers professionnel.
Ouais. Là, on a parlé de cannabis, d'alcool, justement, je dis cocaïne parce que je pense à des choses, on passe un cran au-dessus, on va dire, avec la cocaïne ou la MDMA, vous en parliez juste avant. Là, si on apprend qu'il est sur des substances encore plus risquées, peut-être, en tout cas dans l'immédiat, en danger immédiat, comment on réagit jeunes... C'est plus grave quand même, non
mais les jeunes, ils sont pas dans un phénomène d'addiction maladie. Mmh. Ils sont plutôt dans un phénomène de comportement à risque, d'expérimentation répétée, ou bien d'usage excessif. Moi, je pense qu'il faut mettre tout au même niveau en termes de risque, en tout cas, pas en termes de substance. C'est vrai que
on dit cannabis passons une fois, cocaïne jamais. C'est pas ça. Il faut dire tout.
Non, justement, c'est pourquoi s'il a pris la cocaïne, pourquoi il en a pris ? C'est quoi le contexte ? C'est qui autour ? Il n'a quand même pas acheté de la cocaïne tout seul. Et il faut débriefer de la même façon qu'avec
du cannabis. Mais là, les dangers, on peut aller un peu plus loin.
Mais alors, le problème, c'est que oui, la cocaïne, il y a un risque cardiaque qui est majeur une heure après la prise. Il y a un risque multiplié par 24 de faire un accident cardiaque.
Ça, on peut leur dire, quand même.
Oui, on peut le dire, ça, il faut insister. La MDMA, c'est hyper dangereux. Et c'est un truc qui est hyper à la mode chez les jeunes. Et on peut dire la même chose pour le protoxyde d'azote. Je veux dire, c'est hyper dangereux pour la moelle épinière. Il y a des accidents hématologiques, etc. Donc on est dans
On peut aller sur les trucs un peu plus hard et leur faire peur quand même. C'est
possible. Oui. On peut parler d'accidents cardiaques. Et ça, pour le coup, ils peuvent en faire un à 14 ans, à 15 ans ou à 16 ans. Mais les choses, c'est s'il y a ces consommations-là, c'est pourquoi il y a ces consommations-là. Et il faut tout de suite agir. Il ne faut pas laisser traîner.
Mmh. Professeur Carilla, on va faire une courte pause. On continue bien sûr cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1.
Sans rendez-vous revient dans un instant. On a parlé des situations à risque avérées juste avant. On va essayer de les prévenir juste après. Comment alerter son enfant des risques liés à la drogue sans passer pour un vieux schnock ? À quel âge d'ailleurs faut-il commencer à en parler ? Quelles armes peut-on leur donner pour arriver à dire non le jour où l'occasion se présentera devant eux ? On y revient très vite. Alors restez sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
De retour sur Europe 1 avec notre invité, c'est vous, professeur Laurent Carilla. Vous êtes psychiatre à l'hôpital Paul Brousse de Villejuif. Alors, juste avant, on vient d'évoquer la façon finalement de réagir si on découvre que son ado fume ou a testé des drogues. Mais on dit souvent, et on le dit souvent dans cette émission, mieux vaut prévenir que guérir. Vous pensez que la prévention à la maison sur toutes ces substances qui peuvent être à risque pour nos ados, elle doit démarrer à quel âge, grosso modo ?
Il faut parler très précocement des choses, en fait. L'alcool, c'est un bon moyen. Le tabac aussi, donc des substances licites, a priori, qui sont responsables de plein de morts.
Très tôt, c'est quel âge ?
8-9 ans.
Ah oui, c'est tôt que ça.
Ouais, 8-9 ans, l'alcool, le tabac. Après, si les parents ne fument pas, c'est un peu plus facile. Mais s'ils fument, c'est un peu plus complexe. Et pour l'alcool, on en boit tellement en France que...
Ça, c'est compliqué de dire à son enfant, tu vois, ça c'est dangereux, on en boit le week-end à table.
Mais il faut quand même en parler.
Dans quel mot on utilise
simple, ouais. L'alcool, il y a des risques. Tu vas être en soirée, on va te proposer à boire. Alors à 8-9 ans, ils ne vont pas en soirée. Mais c'est pour préparer un peu les choses. c'est des messages plutôt simples, adaptés à l'âge. Et après,
c'est difficile de dire ça en ayant un verre de rouge à la main,
non,
par exemple.
Non, on ne dit pas en ayant un verre de rouge à la main.
La situation, c'est pas celle-là.
Non, c'est des situations simples. On parle en famille, espèce de petit conseil de famille cool, où on parle de tout et de rien, et on place un peu certaines substances. Tout doucement, on placera le cannabis un peu plus tard. Et on parle aussi dedans, on mêle tout ce qui est écran, réseaux sociaux, etc. Parce que ça véhicule
le porno
aussi. Ouais, le porno dedans, ça véhicule. C'est un packaging en fait de prévention.
Jimmy, 8-9 ans, c'est tôt. Hein.
Ouais, mais je sais pas, mais j'ai un enfant de 7 ans et un autre de 4 ans. Et on leur a montré, on leur parle de la cigarette parce qu'ils peuvent voir les grands-parents fumer autre. Ouais. Et alors, je sais pas, je pense que c'était une très bonne chose, mais on leur montre les images des paquets de cigarettes en disant voilà ton poumon si tu te mets à fumer. Alors je crois que c'est peut-être pas une très bonne chose, de la menace en fait sur le long terme et pas productive.
Si vous voulez, les enfants ou les ados, eux, ils visualisent pas ce problème-là. C'est-à-dire que c'est vraiment le message de l'alcool, ça te donne une cirrhose ou un cancer du foie, et le tabac, ça va te donner un cancer du poumon.
Ça peut pas imprimer une image un peu dégoûtante dans leur tête. Moi, je me dis que Jimmy, il a peut-être raison. Non,
ces images-là, ils les intègrent pas en fait, parce qu'ils se disent, et d'ailleurs c'est vrai, ils ont raison. Ils ne vont pas se faire un cancer du poumon à 14 ans. Quoi.
Remis sur le court terme, et quelque chose de vrai, on ne ment pas en disant...
Non, on ne parle que sur du court terme, sur les effets que ça peut avoir. Donc l'alcool, c'est essentiellement l'ivresse. Quoi. Ou c'est essentiellement, t'es en skate, t'as bu un peu trop. Tu peux avoir un accident, tu peux te fracasser, tu peux te casser un membre.
On parle pas de coma éthylique.
De coma éthylique, c'est de l'aigu, ça. Donc du coma éthylique en soirée, plutôt. Ça peut être tout seul dans la chambre.
Rapports sexuels non consentis.
Rapports sexuels non protégés. Son rapport à l'autre aussi, le respect de la fille, le respect du garçon. Tous ces éléments-là, ça doit être pris en compte. Voilà, c'est sur des choses simples comme ça. Et on est dans le discours à l'autre qui est plutôt singulier et simple.
Jimmy,
si jamais les parents fument du cannabis, c'est une mauvaise chose de l'avouer à ses enfants, ou au contraire, est-ce qu'il faut être hypocrite?
Ils sont fumeurs actifs ou ils ont fumé?
Si par exemple des parents fument de temps en temps, alors je ne parle pas de moi évidemment, mais si vous avez des parents qui fument occasionnellement,
il y en a des adultes qui fument du cannabis.
Exactement, le week-end, donc, est-ce qu'il faut... Et s'ils se font un peu prendre la main dans le sac,
mieux
vaut faire ça en toute discrétion.
Ça, c'est sûr. Il y a ce truc dont je parlais tout à l'heure, c'est le modeling. Le modeling, c'est quelque chose en thérapie comportementale, c'est... Quand je serai grand, je ferai comme les grands. Et les modèles de grands, c'est le frère, le grand frère, la grande sœur.
Donc clairement, fumer devant ses enfants, c'est pas une bonne idée.
Devant ses enfants, c'est pas une bonne idée. Voilà.
Et comment on fait justement quand on est fumeur même de tabac pour dire à son enfant ne fume pas, alors que moi-même je suis en train de donner le mauvais exemple.
C'est hyper complexe, mais il faut plutôt adopter maintenant des situations où bien on peut essayer de s'isoler, si c'est possible. Après, on va dire comment on fait quand on est dans un petit appart, on est 5, 6 dans le même appart et tout. Il y a ce phénomène de modeling à prendre en compte, et il y a ce phénomène de risque que justement il fasse pareil. Mais avant ce modeling parental, il y a le modeling entre amis.
Eh oui, bien sûr.
Le modèle entre copains. Et le modèle entre copains et copines, il est très fort à partir de la primaire, en fait.
Donc, il faut s'intéresser aussi aux gens avec lesquels enfants vont traîner, en fait, l'influence qu'ils peuvent avoir sur eux.
Il y a une influence potentielle, et c'est souvent... pas forcément des milieux défavorisés qui sont une mauvaise influence.
On parlait de l'exemple. Est-ce qu'il faut parler de ses propres, alors pas forcément celle actuelle, Jimmy, pas évoquer des parents qui éventuellement fument du cannabis aujourd'hui, mais si on a fumé du cannabis quand on était plus jeune, ou même si on a été fumeur. Moi, je sais que j'ai beaucoup parlé à mon fils de mes tentatives d'arrêt du tabac. Il a vu à quel point c'était difficile, et je me suis servi de ça comme argument pour ne jamais.
Je félicite.
Je suis toujours à 11 mois sans tabac. Voilà.
C'est très très bien.
Mais il voit à quel point c'est difficile, donc d'où l'intérêt de ne jamais commencer.
Il faut en parler, bien sûr, qu'il faut parler de ses propres expériences. Alors, ça dépend quelles expériences on a eu, mais bien sûr qu'il faut parler de ses expériences de consommation, parce que de toute façon ils peuvent vous poser la question quand même à un moment.
Donc on ment pas, si une dit maman, est-ce que t'as déjà fumé des joints,
vous posez la question,
vérité.
Vous dites la vérité, vous racontez un peu l'histoire autour, et vous pouvez placer plein d'autres choses en plaçant cette histoire, parce qu'il y a quand même, vous imaginez quand vous dites aussi, moi j'ai déjà fumé des joints pendant mes années je sais pas quoi à la fac, vous pouvez placer d'autres messages quand même, et il y a une confiance, une véritable confiance qui s'instaure en plus entre les enfants.
Et regarde ce copain qu'il faisait avec moi comme il a mal tourné, j'ai n'importe quoi,
d'autres exemples, mais en tout cas sur l'expérience perso, ça renforce la confiance du lien en fait.
Jimmy,
vous en parliez tout à l'heure, il y a un vrai problème avec le protoxyde d'azote. Ça fait des mois qu'on en parle. Est-ce que le message ne passe pas? Parce que finalement, on dit n'importe quoi. On dit attention, vertige, brûlure de la lèvre. On n'emploie peut-être pas les bons mots pour les sensibiliser. Qu'est-ce qui cloche?
Il y a eu quand même, là, ça s'est accéléré, les campagnes de prévention. Elles ne sont pas encore assez visibles, je trouve. Mais il y a quand même une communication autour. Mais il faut marteler l'histoire.
Certains parlent de les interdire à moins de 18 ans, enfin au moins de 18 ans, enfin l'achat, la vente.
Si ça se fait, ça se fait. Mais franchement, l'alcool c'est interdit aux mineurs. Il y a de l'alcool, le tabac. Enfin, vous voyez, on s'en fout de ça. C'est interdire, ça sert. Ça marche pas.
Ouais.
Donc la prohibition, ça n'a jamais marché. C'est plutôt quel message fort on donne et qui peut donner ces messages forts. Et je pense qu'il faut, sur le protoxyde d'azote ou d'autres trucs en soirée, etc., il faut faire intervenir des jeunes. dans les vrais messages de prévention, il faut répéter ces campagnes via les jeunes. Il faut utiliser Instagram. Parce que Facebook,
c'est quoi votre message sur cette substance-là, le protoxyde d'azote ?
Protoxyde d'azote, le risque en immédiat, c'est vrai que le premier truc, c'est un truc euphorisant, c'est pour rigoler, etc. Mais il y a des risques. Il y a des risques de brûlure de lèvres, il y a des risques de vertige, mais il y a aussi des risques de chute. Hein, donc il faut quand même utiliser certains trucs de réduction des risques, comme si jamais tu prends du protoxyde d'azote, reste debout, ne sois pas seul, etc. Et puis après, il y a le risque sur la moelle épinière, c'est catastrophe. Catastrophe.
Merci beaucoup, professeur Carilla. C'était trop court, hein. Vous reviendrez parler avec nous des adolescents. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et de nous avoir éclairé sur cette période à risque à l'adolescence.
Europe 1.
Dans un instant, notre chronique « Les maux du quotidien » focus sur une maladie qu'on a presque oubliée grâce à la vaccination. Savez-vous ce que sont les oreillons ? Savez-vous que chez les adolescents ou les adultes, cette maladie virale expose à un certain nombre de complications ? Bien sûr, nous vous en dirons plus juste après. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé sans rendez-vous, c'est tous les jours de 15h à 16h. Nous sommes très heureux d'être avec vous cet après-midi encore. Alors il est temps maintenant de passer à notre séquence, les bobos, les maux du quotidien. Aujourd'hui, focus sur les oreillons. Vous êtes sûrement vacciné contre cette pathologie, mais savez-vous comment ça s'attrape ? Quels sont les symptômes ? Et surtout, à quel type de complications cela peut conduire chez des ados ou des adultes ? Benjamin Lévesque a été testé justement vos connaissances sur les oreillons. On écoute tout de suite son micro-trottoir.
Les oreillons. Oreilles, oreillons. Ça a un lien, je pense.
Au niveau de toute la sphère ORL.
Une gêne, et puis ça doit faire mal, ça doit peut-être bourdonner un peu dans les oreilles, un genre de truc.
Peut-être comme des sortes d'otites.
C'est une maladie infectieuse, je présume. Ça peut être assez grave si c'est pas traité à temps ou si on ne diagnostique pas assez vite la chose.
Je sais pas, mauvaise hygiène des oreilles.
Alors plutôt chez les enfants en particulier, mais je pense que certains adultes peuvent en avoir.
Ça doit être un virus, donc ils se l'attrapent entre eux et ils se le refilent.
Injection dans les oreilles peut-être pour enlever la bactérie en elle-même.
Antibiotiques je pense, ou peut-être des crèmes, comme un peu du collyre là, mais je sais pas, pour les oreilles, un truc comme ça quoi.
Bon, pour les oreilles, tout ça, un truc comme ça, on va voir Jimmy, on va reprendre du début sur les oreillons. Donc heureusement, on n'entend quasiment plus parler de cette maladie grâce à la vaccination. Mais en fait, c'est quoi cette maladie ? C'est provoqué par un virus, hein,
exactement,
je crois.
Les oreillons, c'est une maladie virale qui se caractérise par une inflammation des glandes salivaires qui sont situées où, Mélanie ? À l'avant des...
Des oreilles.
Bah des oreilles, oreillons, oreilles, évidemment.
Qu'on appelle il me fait des quiz maintenant. Mince, attendez, je me concentre vraiment. La
journaliste santé d'Europe 1, quand même, elle se doit d'avoir un minimum de connaissances et vous avez passé le test avec brio.
Ah, super.
Donc, au niveau des glandes parotides, eh bien, c'est dû effectivement à un virus qui a un nom un peu barbare, qui s'appelle le paramyxovirus, qui est dit virus ourlien, qui circule uniquement entre les êtres humains. Et détrompez-vous, les oreillons ne sont pas une maladie du passé. Alors, mes chiffres ils sont un peu vieux, ils datent de 2011, mais ils sont acceptables. 6000 cas ont été recensés et ça ne concerne pas que les jeunes enfants. On a une proportion inquiétante d'adolescents et de jeunes adultes qui ont été infectés assez récemment et ça a augmenté d'ailleurs depuis 2008.
Alors, ça donne quoi en termes de symptômes ? On a un petit peu compris où ça se passait. Au final, j'ai en tête en tout cas que chez les petits, c'est pas bien grave, quoi.
Exactement. Alors, c'est vrai et faux. C'est vrai parce que chez les enfants, c'est plutôt bénin. Dans 30% des cas, il n'y a même aucun symptôme et ça passe de façon inaperçue. Sauf qu'on peut avoir du coup cette inflammation derrière les oreilles au niveau des glandes salivaires. Donc vous avez une tuméfaction, c'est gonflé, comme si vous aviez un peu des joues de hamster. C'est douloureux, vous avez la peau qui est tendue, inflammatoire. Vous avez de la température, mal à la tête. Et puis vous êtes très fatigué et vous allez guérir entre 10 et 15 jours. Sans aucun traitement particulier, vu que c'est une maladie virale, il n'y a pas de traitement, si ce n'est prendre du Doliprane et attendre que ça passe.
Mais attention, attention, si vous êtes adolescent ou adulte, là, ça peut se compliquer.
Exactement, c'est des populations qui sont plus à risque, avec des complications qui sont rares, mais beaucoup plus graves. Vous pouvez avoir une méningite, une perte d'audition avec une atteinte d'un des nerfs, une pancréatite, une inflammation du pancréas, et même une atteinte des testicules, puisque ce virus, il a un tropisme pour certains organes, le pancréas, je vous en ai parlé, avec la pancréatite, mais aussi le testicule. Donc attention aussi aux femmes enceintes qui ne seraient pas immunisées ou vaccinées. Pas de problème de malformation. En revanche, on sait que toute infection peut entraîner des fausses couches, et c'est notamment le cas lors du premier trimestre de grossesse.
Donc mieux vaut être vacciné contre les oreillons avant de faire un petit bébé. Un seul message à véhiculer, Jimmy, concernant les oreillons, c'est que la bonne nouvelle, c'est que si on est vacciné, a priori, tout va bien.
Exactement.
Et il faut le faire, ce vaccin.
Il faut le faire. Et d'ailleurs, il est obligatoire pour les enfants qui sont nés après janvier 2018.
C'est dans le ROR, le rubéole, oreillon, rougeole.
Ben voilà,
je suis trop forte, vous avez
vu. On n'a même plus besoin d'un docteur sur le plateau, vous êtes là. Donc effectivement, c'est le ROR, on fait 3 en 1. C'est remboursé à 100% par l'assurance maladie pour tous les enfants qui ont entre 1 et 18 ans. Puis après, c'est remboursé à 65% pour tous les autres assurés. Évidemment, avec votre mutuelle, ça sera complété. Et puis, on peut vacciner le ROR contre l'aurore avec d'autres vaccins en même temps. De toute façon, posez des questions à votre pédiatre. Et souvent, les parents ne savent même pas ce que c'est que l'aurore. Donc voilà, vous le savez, grâce à nous, c'est déjà une grande découverte aujourd'hui.
Bravo et merci beaucoup, Jimmy, pour toutes ces précisions.
Europe 1.
Dans un instant, la dernière partie de cette émission. Vous êtes avec nous jusqu'à 16h et restez surtout, car juste après, c'est la chronique sexo de Catherine Blanc. Donc restez avec nous sur Europe 1.
Europe 1, Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé, le bien-être et la sexo, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Pour cette dernière séquence de l'émission, c'est Catherine Blanc qui nous rejoint, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui on a une question de Jérôme que je vais vous lire tout de suite. J'ai 32 ans et puis non, Jimmy, vous allez la lire vous, tiens.
Oui, très bien.
J'ai la voix fatiguée en ce moment.
Non mais il n'y a aucun problème, je suis là pour vous épauler Mélanie.
Allez-y.
J'ai 32 ans et toujours célibataire, le problème c'est que je n'arrive jamais à aborder les filles dans les bars ou dans la rue. Je suis trop timide, j'hésite même à m'inscrire sur les applications de rencontres, mais j'ai une mauvaise image de ces outils. Qu'en pensez-vous ? Catherine, quand même 32 ans, un homme qui a du mal à aborder une femme, c'est effectivement problématique.
Bah, de toute façon, la timidité est merveilleuse avec, évidemment, parcimonie. C'est-à-dire que la timidité, ça permet d'être tout à soi, un peu à sa pudeur. Et
mais quand
c'est paralysant...
Voilà,
mais quand ça empêche complètement le lien à l'autre et que ça bride son élan, puisque la réalité, c'est qu'il y a de l'élan, il y a de l'envie, mais il y a de l'incapacité au passage à l'acte. Et je dirais même que plus il y a de l'incapacité, plus le désir est bouillonnant et plus ce désir bouillonnant est perçu comme quelque chose de suspect, de coupable, de démesuré, d'immaîtrisable. Et du coup, ça fait la timidité accrue. Donc, on est dans un cercle un peu vicieux.
Jimmy ?
Bah, de toute façon, c'est vrai que c'est difficile de façon générale, croire qu'un homme pourrait aborder une femme dans un bar ou dans un restaurant ou dans la rue. Ça nécessite, à mon avis, un courage que très peu ont. Donc, il y a peut-être d'autres façons d'aborder une femme. Alors là, il parle des outils, mais ça peut être sur un lieu de travail, ça peut être une rencontre fortuite. On n'est pas obligé d'aborder une femme dans la rue pour séduire quelqu'un.
Non, mais c'est certainement la représentation qu'il a de ce que devrait être un homme, puisqu'aujourd'hui, on accuse les hommes de harcèlement de rue en permanence, d'avoir que ce processus ou cette pensée à l'égard des femmes. Donc, certainement que cet homme est dans l'idée que c'est ça, être un homme, et qu'il n'y parvient pas, et qu'il n'est pas à la hauteur de ces Superman aujourd'hui vécus comme des hommes pervers et extrêmement agressifs. Donc lui, il est à se protéger de l'agressivité, envier la possibilité de l'être. Du coup, il s'en mêle complètement et il est dans la difficulté. La réalité, c'est que c'est difficile pour chacun d'entre nous d'aborder quelqu'un qu'on ne connaît pas sous aucun autre prétexte que ce qui serait se rendre service, travailler ensemble, acheter quelque chose à l'autre. Enfin, il faut qu'il y ait quelque chose qui suppose qu'on se parle naturellement comme ça, traverser et puis aborder quelqu'un, quand bien même cette femme serait intéressée parce qu'elle le trouverait à son goût.
C'est une chance sur 10 en plus, hein, c'est pas
en
sûr.
En plus, et peut-être plus que sur 10.
Moi, j'aime pas être dérangée dans la rue. Je sais pas, c'est pas évident d'être abordée dans la rue.
Exactement, parce que c'est aussi pour la personne qui est abordée dans la rue se dire qui suis-je ou quelle image aurait-il de moi pour le laisser penser qu'on puisse m'aborder comme ça. Donc même s'il est désirable, désirable en tout cas à son goût, ça mérite d'en savoir un peu plus. Et quand on s'aborde un peu sauvagement comme ça, c'est pas là qu'on a les meilleures relations. Donc effectivement, il n'y a rien de tel. C'est pour ça que c'est plus facile quand on est plus jeune. C'est qu'on fait des études ensemble, on partage des activités sportives. Et donc du coup, on se voit dans une récurrence qui permet de nouer des liens et petit à petit de laisser tomber un peu de pudeur.
Lui, il parle des... Ah pardon Jimmy, non, je me sens très inspiré aujourd'hui, allez-y, termine.
Non, mais là, il parlait des réseaux sociaux, enfin en tout cas des sites de rencontres. Néanmoins, ça peut rester un outil supplémentaire quand on est très timide, puisqu'il n'y a pas de contrainte de se voir, on peut écrire. Il ne faut pas diaboliser, même si effectivement, parfois on consomme de la relation sexuelle avec certaines applications. Ça peut être quand même un plus pour lui.
Ça peut être un plus. La difficulté, c'est après passer de l'aisance, de la distance où on peut avoir beau jeu, parce qu'on a pris du temps pour réfléchir, ses mots, sa façon d'aborder. Et puis après, face à l'autre, on se retrouve avec l'improvisation et sa timidité qui est très en marge de ce qu'on a écrit. C'est ça un peu le piège.
Mais pour se lancer déjà, c'est pas mal, non ? Pour les grands timides.
Oui, je trouve que c'est intéressant. Simplement, plus ils vont le réfléchir et moins ils écrivent avec spontanéité, plus la rencontre est compliquée. Or, justement, les grands timides veulent beaucoup être dans le contrôle parce qu'ils sont timides. Et donc, plus ils sont dans le contrôle, plus ils établissent une relation extrêmement maîtrisée qui est en marge de ce qui va se produire. Donc, je crois que la première des choses, c'est un très bon outil. C'est aussi le groupe entre amis. C'est aussi...
Donc, vous conseillez de ne pas aller que sur cette piste-là, pas que les applications.
Il faut aussi aller
continuer la vie, quoi.
Voilà, il faut rencontrer, même si c'est par la biais des applications qu'il rencontrera peut-être une femme, c'est en tout cas dans les relations avec les femmes qu'il apprendra comment fonctionnent les femmes pour justement se détendre quant à cet échange entre hommes et femmes et entre les attentes supposées qu'il croit que les femmes ont de lui et qu'il mette un enjeu colossal. Et puis aussi réfléchir pourquoi il a peur de lui, pourquoi il ne se sent pas à la hauteur. Et là, on n'est plus dans un cadre thérapeutique, bien évidemment.
Merci beaucoup, Catherine, pour tous ces conseils. Je vous dis donc à demain. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Tout de suite, vous les attendez avec impatience. C'est Stéphane Bern et Mathieu Noël. Ils vont vous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour, messieurs.
Bonjour, Mélanie. Restez avec nous aujourd'hui dans Historiquement Vôtre. À nouveau, trois personnages de l'histoire que rien ne relie a priori. Mais oui, ils ont un point commun, Stéphane.
Oui, Dieu leur a donné la foi, comme le chantait si bien Ophélie Winter.
Mais on parlera d'Ophélie Winter ?
Non, on parlera de Louise de Lavallière, la seule femme qui a vraiment aimé le roi Louis XIV pour lui.
Oui, vu la laine qu'il avait, c'est quand même...
non, mais ça, c'était au début de sa carrière d'amant. Ah, oui. Et donc, désespérée de créer le péché, eh bien, elle est entrée au couvent. Sainte Thérèse de Lisieux. C'est un personnage qui me bouleverse chaque fois. Et puis, alors
Kanye West aussi, il vous bouleverse. C'est Kanye West qui est candidat à la présidentielle américaine.
C'est le mari de Kim Kardashian.
C'est son mari. Et lui aussi a rencontré Dieu à sa manière. Maintenant, tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu.
Bon, écoutez, c'est parfait. C'est un très beau programme. Je vous souhaite une très belle émission. On sera à l'écoute avec Jimmy, bien sûr. Et vous aussi, restez sur Europe 1. Hein.